Mars et cette question. Mars est-il un rêve accessible et cette planète va-t-elle nous révéler le mystère sur les origines de la vie? Autour de la table des mots de l'info, Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale et responsable scientifique de Philae notamment, et Bruno Rougier, spécialiste de l'espace et au-delà sur France Info. Bruno, en quoi consiste cette, ou plutôt ces missions ExoMars qui se profilent pour 2016?
Oui, on peut effectivement dire ces missions parce qu'il y a une première mission qui va partir au mois de mars prochain. Cette mission va emmener deux modules, un orbiteur qui va donc rester autour de Mars, qui va faire à la fois une étude de l'atmosphère de Mars, mais aussi qui va servir de relais entre Mars et la Terre. Et puis un petit engin qui s'appelle Schiaparelli, du nom d'un astronome italien. Et cet engin va tenter de rentrer dans l'espace. En tout cas, on va tester la rentrée dans l'espace de Mars et puis se poser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura une seconde mission en 2018, ExoMars 2018, qui là va poser un rover sur Mars, un rover qui va faire des analyses biologiques et qui aura une grande foreuse qui pourra forer à 2 mètres de profondeur.
Vous voulez pas l'appeler un petit robot pour non, pour le côté émotionnel. Jean-Pierre Bibring, essayez de comprendre comment est née la Terre. Est-ce que ça passe par Mars?
Non, comprendre comment est née la Terre, ça passe par l'étude de l'ensemble du système solaire. Et c'est vrai que depuis qu'il y a l'exploration spatiale du système solaire, c'est une étape de révolution qui s'opère actuellement sur notre compréhension de ce qui fait que les mondes planétaires sont tellement différents. Qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, Mars est différente, alors qu'on procède de l'évolution à partir d'un même matériau d'origine. Et c'est vrai que cette question-là, qui irrigue un tas de pans de l'activité humaine, bien au-delà de la sphère scientifique, elle pose la question de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait que la Terre a été capable d'abriter des océans si longtemps et surtout d'héberger les conditions qui font que la vie a pu démarrer. Et c'est vrai que dans cette recherche-là, là, Mars a un rôle tout à fait particulier parce qu'on est à peu près convaincu que si la vie a pu démarrer ailleurs que sur Terre, c'est sur Mars. Et ce qui est étonnant, c'est que on a évidemment perdu, tout simplement la trace sur la Terre de cette époque où la vie a pu démarrer. Donc c'est extrêmement difficile, en regardant juste la Terre, de comprendre où, comment et pourquoi la vie a pu y démarrer. Et il se trouve que Mars, très tôt dans son histoire, a dû héberger des conditions très similaires à ce qu'on croit être les conditions qui ont prévalu sur Terre il y a plus de 4 milliards d'années lorsque la vie a démarré. Et Mars a conservé des terrains, et c'est ça qui est très fort, et je dois dire d'ailleurs que ce sont des équipes européennes et même des équipes françaises soutenues par le CNES qui ont mis en évidence le fait que très tôt dans son histoire, il y a eu probablement de l'eau stable à la surface de Mars, alors que bien sûr aujourd'hui ce n'est plus possible. Et on en a gardé la trace essentiellement parce que quand vous avez de l'eau qui barbote très longtemps à la surface, ça modifie les minéraux eux-mêmes. On a trouvé les résultats de cette altération, des argiles, des matériaux qui, comme sur Terre, procèdent du fait qu'il y a de l'eau pendant très longtemps à la surface. Et Mars a conservé un petit nombre de ces terrains-là. Et ce que l'on se dit maintenant, c'est que si on va explorer ces terrains-là, on pourra savoir, un, si la vie a pu démarrer ailleurs, si la vie est suffisamment robuste pour avoir pu s'adapter à un environnement différent de celui de la Terre. Et si jamais on le trouve, on pourra en même temps caractériser l'environnement qui était celui de Mars au moment où la vie a émergé. Et c'est ça qu'on va faire. C'est ça que, grâce à ce que l'on a fait depuis une dizaine d'années, nous permet de dire maintenant, si on va se poser dans ces endroits-là, si on va ausculter ces terrains-là, les analyser, on peut dire à l'échelle même microscopique, on pourra savoir si à un moment donné, du carbone a pu passer à ce qu'on appelle des espèces vivantes. On devrait en avoir la trace.
Si je comprends bien, on est à la recherche de notre passé. Ce serait comme une planète cousine ou presque sœur.
Sachant que notre passé, évidemment, éclaire notre présent, notre futur. Tout ce qui se passe sur Terre actuellement, on l'a vu avec les affaires d'environnement récemment, est directement lié au fait que l'on comprend qu'il a fallu tout un processus d'évolution dont on est le tributaire, quelque part, et les héritiers, et qu'il faut bien sûr le préserver. Mais c'est vrai qu'allant sur Mars, on peut avoir accès aux conditions qui ont prévalu il y a si longtemps sur Terre, qui font qu'on est là aujourd'hui pour en parler.
Où va se poser ce rover? On parle d'une terre, vous parliez d'argile, est-ce qu'on va plutôt dans...
Oxyaplanum.
Pardon, excusez-moi, Oxyaplanum.
Voilà oui. Où il va se poser.
C'est probablement Oxyaplanum si ça part en 2018, si c'est décalé, il y a d'autres sites. Il y a à la surface de Mars un petit nombre de sites que l'on a identifiés, et quand je dis l'on, c'est vraiment des équipes françaises en particulier, qui ont mis en évidence qu'effectivement, pour des raisons qu'on peut expliquer, ces sites-là ont gardé ce matériau d'origine formé il y a plus de 4 milliards d'années. Il n'y en a pas énormément parce que Mars, comme les autres planètes du système solaire, ont aussi beaucoup évolué. Il y a eu un énorme bombardement qui, plus tard, celui que l'on voit quand on regarde la Lune, vous savez, la Lune est bourrée de cratères d'impact. Mars a eu aussi cet effet-là et la Terre aussi, du reste. Et alors, ce qui s'est passé pour l'émergence de la vie, c'est probablement avant ce bombardement. Eh bien, Mars a gardé des terrains qui se sont formés avant même ce bombardement, qui ont été protégés pendant ce bombardement. Et Oxyaplanum, comme Mars Valise, comme d'autres terrains, il y en a un tout petit nombre seulement, font partie de cela. Et ce qui est remarquable, c'est que les agences spatiales, et en particulier l'Agence spatiale européenne, a identifié comme site privilégié pour y aller précisément les sites qu'on a identifiés comme ayant gardé ces minéraux qui peuvent être vraiment la trace fossilisée des moments où la vie a émergé.
Fin 2015, il y a quelques semaines, on a fêté les un an de Philae, en tout cas les un an de sa rencontre avec la comète Chury. Est-ce qu'on a des nouvelles, Bruno Rougier ?
Bien, pour le moment, on peut dire que Philae est toujours muet, mais Philae pourrait peut-être reparler dans les prochaines semaines. Ce qui est important à dire, c'est que si Philae est muet, il y a Rosetta qui continue à tourner autour de la comète et qui continue à donner des informations. Et ce qui est intéressant, c'est que on a quand même repéré déjà différentes molécules organiques qui sont présentes sur la comète et qui peuvent être des précurseurs de molécules importantes pour la vie. Donc on le voit, les traces de vie, on va les chercher partout dans l'univers.
Oui, il n'y a pas que Mars, Jean-Pierre Vibrin.
Bien sûr qu'il n'y a pas que Mars, mais ce que l'on dit, c'est la chose suivante. Pour que la vie émerge, il faut un certain nombre d'ingrédients. L'eau est probablement un des plus nécessaires. Donc la première recherche, c'est de savoir s'il a pu y avoir de l'eau liquide suffisamment longtemps, ailleurs que sur Terre, pour que la vie puisse éventuellement prendre place. Et à nouveau, c'est ça que l'on va regarder sur Mars, puisque sur Mars, les terrains qu'on a identifiés, c'est pour avoir connu de l'eau liquide. Mais l'eau ne suffit pas. Une fois qu'il y a de l'eau suffisamment longtemps, il faut donner d'autres ingrédients. Et ces autres ingrédients, ce sont en particulier ce qu'on appelle les molécules organiques, des molécules à base de carbone, d'oxygène, d'azote, dont on n'a pas encore idée de la composition exacte, mais dont on a à peu près convaincu maintenant que ces molécules-là ont été formées très tôt dans l'histoire du système solaire, bloquées dans des objets très froids, dont, comme les comètes en sont des bons représentants, et que ce sont l'impact de ces objets-là qui a pu permettre, dans les océans primordiaux, de donner naissance aux vivants. Donc ce qu'on fait avec Rosetta, c'est précisément d'essayer d'avoir accès à ce que sont ces molécules-là. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, Rosetta et Philae ont apporté des résultats tout à fait fondamentaux, parce que ça confirme cette idée que probablement ce matériau-là était disponible, que c'est lui qui, émergé dans les océans initiaux, a pu ensemencer ces océans. Et bien sûr, si ça s'est fait sur Terre, ça s'est fait aussi sur Mars. Donc ce que l'on fait actuellement avec Rosetta et Philae, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir accès à ce que sont ces molécules primordiales qui ont pu donner naissance aux vivants. Et bien sûr, la question suivante, c'est est-ce que ces molécules sont particulières à notre propre système, ou est-ce qu'elles résultent d'un processus suffisamment général pour être aussi présentes ailleurs dans la galaxie ? On ne connaît pas encore la réponse, mais plus ça va, plus on est convaincu que finalement, il a fallu un enchevêtrement de processus qui peut être très particulier à notre système. Il faudra peut-être s'habituer avec l'idée que ce que nous sommes ici, il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres endroits dans l'univers qui ont permis la même évolution.
La popularité de Philae, ça peut aider la recherche, vos recherches ou pas du tout ? C'est, entre guillemets, si ce n'est accessoire, périphérique.
Non, c'est une question très sensible. On le dit souvent, ce qu'on a été capable de faire avec Philae, les structures aujourd'hui de notre mode de fonctionnement dans la recherche ne le permettraient pas à nouveau. C'est dur à dire comme ça, et c'est quelque chose qui nécessite en général un peu d'abord de la diplomatie et des explications. Vous savez, des projets comme Philae, c'est des projets qui se montent sur 20-30 ans. On a démarré cette affaire-là à la fin des années 80. Il faut d'abord un système public qui permette de maintenir des équipes pendant très longtemps. C'est pas le privé qui peut faire ça, c'est le public. Mais il faut aussi toute une infrastructure que le CNES en France a été capable de tisser avec ce qu'on appelle des laboratoires spatiaux, un partenariat entre une agence spatiale, des laboratoires, une industrie capable de mettre ensemble ce qu'il y a de mieux à un moment donné dans un pays entre des scientifiques et des industriels. Aujourd'hui, nos laboratoires spatiaux sont en véritable difficulté parce qu'on a une difficulté monstre à maintenir le savoir-faire. Donc c'est vrai que Rosetta devrait nous aider à sensibiliser, en particulier les pouvoirs publics, nos tutelles là-dessus. On a quelques difficultés, mais on ne perd pas espoir. De même qu'on ne perd pas espoir de réveiller Philae dans les moments qui viennent.
On l'espère aussi, on croise les doigts. Bruno Rougier, petit rappel, ExoMars, ça part quand ?
ExoMars, ça va partir au mois de mars 2016, l'année prochaine, et puis une deuxième mission 2 ans plus tard.
On croise les doigts en tout cas. Jean-Pierre Vibrin, merci, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale, je le rappelle, et Bruno Rougier, donc spécialiste de l'espace et de l'au-delà, évidemment, sur France Info. Les mots de l'info, c'est sur France Info et franceinfo.fr.